Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Timothée Mémon.
23h de retour dans l'after. Vous nous appelez au 32-16 pour nous parler de votre joueur le plus surestimé de l'histoire du football. On terminera cette émission avec une belle histoire de football italien. Comptez sur l'accent suave de Simone Rovera pour vous la faire vivre. On va se poser la question, l'UEFA a-t-elle tenu son rôle dans sa crise, dans cette crise sanitaire? Mais avant cela, messieurs, je voudrais vous donner une information qui va nous replonger dans le débat qu'on avait hier. Deux joueurs du Dynamo Dresde, club de D2 allemande, ont été testés positifs au Covid-19. Les membres de l'effectif vont être mis en quatorzaine pendant 15 jours. Et une chose a été actée, c'est que Dresde, qui devait être opposé à Hanovre dimanche prochain, eh bien le match est d'ores et déjà repoussé.
On
a annoncé la reprise, oui, mais cette fois c'est officiel, le match sera reporté, ce match de D2 de Bundesliga. On a annoncé la reprise de la Bundesliga et patatras, trois jours plus tard, déjà un cas met en péril ce projet.
Hier, on en a parlé hier et vous étiez tous contre moi quand je vous disais que s'il y a deux cas, je vous disais qu'il allait y avoir forfait. Et vous me disiez, mais non, ils vont éliminer ces deux joueurs et puis ils vont mettre deux jeunes à la place ou ils vont mettre deux autres.
C'est ce qui était prévu dans le protocole annoncé. Et effectivement, tu as raison.
Et ils le font pas parce que c'est pas ça.
Lionel, c'était prévu comme ça.
La preuve que non, c'était pas prévu. C'est des conneries. La preuve que non. Si c'était prévu, ils auraient fait ce que vous avez dit hier. Alors, s'ils ont changé, c'est qu'ils avaient, on l'a mal interprété et que je voyais pas comment c'était possible.
Ouais, surtout que là, les joueurs en question avaient débuté leur fameuse mise au vert quarantaine, ouais, qui doit durer une semaine avant le premier match.
Et en ce qui concerne les Allemands, je suis désolé, mais décidément, je suis d'accord avec Rien, comme je le disais hier ou ce matin, je me rappelle plus. Mais les Allemands, contrairement à nous, ils n'ont pas le temps aussi d'attendre encore une quinzaine de jours pour voir l'évolution des choses et ne démarrer que à la fin mai ou le 2 ou le 3 juin. Ils veulent terminer,
premiers.
Ils veulent que la planète du football les regarde. Eh ben, je pense que eux, par contre, ils redémarrent un peu tôt.
Voilà, en tout cas, pour cette information, la Bundesliga devrait reprendre normalement samedi et dimanche prochain. Pour ce qui est de la Bundesliga 2, la D2 allemande, eh bien, sur les matchs prévus, sur les 10 matchs du week-end prochain, un est d'ores et déjà annulé puisque deux joueurs du Dynamo Dresde ont été testés positifs au Covid-19. On va se poser cette question, messieurs, qui me semble être une question de fond. Moi, je me la pose depuis le tout début du confinement, dès que la cacophonie est arrivé en France. Le football européen a une grande institution censée le régir. Elle s'appelle l'UEFA, tout le monde la connaît. Certes, cette institution ne peut se permettre de faire acte d'ingérence dans le précaré des fédérations, des ligues, mais à situation extraordinaire, mesure extraordinaire, l'UEFA n'aurait-elle pas pu prendre en main le dossier de l'arrêt des compétitions, de la reprise des compétitions post-confinement? Finalement, à part laisser planer le doute sur sa très chère Ligue des Champions et son Europa League, l'UEFA n'a pas vraiment joué son rôle. Est-ce que l'on attendait plus, messieurs, de la part de l'UEFA?
Ben moi, j'attendais plus de tout le monde. J'attendais plus de la Ligue, j'attendais plus de la Fédé, j'attendais plus de l'UEFA. Et j'attendais plus, si tu veux, de tous les syndicats pour que, justement, on puisse ensemble prendre une décision ou aider notre Premier ministre à la prendre.
Donc, coach, c'est sûr, coach, puisque personne n'arrivait à trouver de décision commune, puisque ça partait dans tous les sens, les présidents, les syndicats et tout ça, est-ce que ça n'est pas à la plus haute autorité de prendre les choses en main? Moi, j'ai l'impression que l'UEFA me fait un peu penser à ces institutions qui sont là quand il faut taper sur les doigts, distribuer les mauvais points, mais en revanche, qui n'a pas endossé ses responsabilités.
Mais je te disais tout à l'heure, j'étais surpris que... Il tape justement sur les doigts des Belges qui avaient pris cette décision avant tout le monde d'arrêter leur championnat. Et en ce qui nous concerne, nous, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Sincèrement, j'ai été surpris. Et quand on parlait de Jean-Michel Aulas, après on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec Jean-Michel Aulas, mais peut-être que même lui a fait que l'envergure qu'il a, il a pu être surpris aussi.
Lionel, ouais. L'UEFA, c'est censé être en fait ce qui est au sommet de la chaîne. Est-ce qu'il y a un moment, ils n'auraient pas pu dire, on va, nous, prendre le rôle de réunir les présidents français, les présidents italiens,
d'accord avec toi.
Les présidents de Fédé, faire une réunion,
être l'élément déclencheur pour, comme Roland disait, que ce soit au niveau des au niveau des clubs, au niveau des fédés, au niveau de à tous ces niveaux-là, de toutes les fédérations. Il y a un élément fédérateur normalement qui est là, c'est l'institution, c'est l'UEFA. Alors ils ont voulu, et Roland a raison, encore une fois, taper sur les Belges, je pense, parce que ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas de pouvoir d'autorité. C'est pas le UEFA qui te dit vous continuez. Vous continuez pas votre championnat, donc ils ont dit ah mais si vous continuez pas, on va vous taper sur les doigts, vous allez pas voir ci, vous allez pas voir ça. C'était pour se donner un petit peu d'autorité, alors qu'ils n'en ont aucune. Ils n'en ont aucune, et en plus ils se décrédibilisent par rapport à leur à tout ce qu'ils n'ont pas fait, je dirais, en étant l'élément fédérateur au lieu de taper sur les doigts. Voilà messieurs, il faut absolument que vos championnats reprennent. Comment pouvons-nous faire de tels en Allemagne, dans chaque pays, comment est-ce que c'est géré, faire un tour de table, et puis unifier tout ça, essayer de pour vous aider, je pense que on s'est entouré des plus grands chercheurs, les médecins, on a vu l'OMS, et voilà ce qu'ils nous prescrivent. Est-ce que vous pensez être à même de pouvoir le faire? Au moins ils orientent les gens, parce que là chaque fédération s'est retrouvée à gérer, que ce soit les Italiens, ils ont géré de leur côté. Les Allemands, ils ont géré de leur côté. Les Français ont géré de leur côté. Il n'y a eu aucune unité là-dedans. S'il n'y a pas d'unité là-dedans, ça veut dire qu'à la tête, tu n'as personne qui les unit. C'est tout. Et leur taf, je suis d'accord avec toi, Tim, c'était de fédérer tout ça, d'avoir un langage commun et de montrer l'exemple à l'Europe.
Coach, cette neutralité très suisse de la part de l'UEFA pendant cette période, est-ce qu'elle t'a choqué? Est-ce que tu penses que d'une certaine manière, vu que la situation était exceptionnelle, l'UEFA devait tenter quelque chose? Leur silence t'a étonné?
Oui, étonné, déçu, mais je suis déçu, si on parle de déception, pas que de l'UEFA, hein. Notre ligue, notre fédé, savoir exactement ce qui s'est passé avec notre premier ministre, qui c'est qui lui a conseillé de prendre cette décision aussi hâtive. Donc on n'est pas au courant de tout, même si on a une petite idée.
On va reprendre Tariq qui nous a appelé au 32-16. Salut Tariq, supporter du Paris Saint-Germain, comment ça va?
Oui, bonsoir tout le monde.
Merci.
Salut Tariq.
Merci de nous avoir rejoint au 32-16. Tu l'as compris ce silence finalement de l'UEFA qui a simplement dit on vous donne jusqu'au 26 mai pour nous donner vos dates de compétition et nous on vous dira comment on finit notre Ligue des Champions, notre Europa League, mais pour le reste pas finalement d'investissement dans le fonctionnement général du football en Europe.
Non, je l'ai pas compris. Et aussi, moi, je pense que avec cette crise-là, l'UEFA et même la FIFA, pour aller au-delà de ça, auraient pu sortir grandi de cette crise. Je sais pas si c'est possible, mais moi, par exemple, j'aurais bien vu quelque chose comme l'UEFA qui dise on prend pas de risque avec toutes les fédérations, toutes les ligues européennes, on prend pas de risque avec cette crise qui est une crise qu'on a tous les 100 ans. Vous ne prenez pas les championnats, on ne prend aucun risque avec la santé des joueurs, la santé des staffs, etc., etc. On annule tous les championnats. Moi, d'après ce que je sais, l'UEFA, c'est quand même... Ils sont très, très riches. C'est des États dans l'État, l'UEFA et la FIFA. Qui propose leur aide, quitte à faire des prêts? On a vu que l'État français a fait des prêts à la LFP, quitte à les aider à faire même carrément des dons ou alors eux-mêmes leur prêter de l'argent à certaines fédérations. Je ne sais pas comment ils auraient pu s'organiser par rapport aux coefficients UEFA ou autres, et dire on arrête tout, on reprend la Ligue des Champions au mois d'août comme ils veulent le refaire, mais on vous laisse le temps de vous préparer jusqu'au mois d'août et que ça soit équitable, qu'il n'y ait pas le championnat de France qui soit arrêté d'un côté, qu'il y ait peut-être l'Italie qui contreprend et qui risque de reprendre et puis s'arrêter. Et voilà, que tout le monde soit sur le même bateau. Et puis, en plus, derrière tout ça, je pense qu'ils en seraient ressortis vraiment grandis.
Mais le fait d'arrêter, Tariq, c'est Tariq, hein?
Ouais, c'est ça.
Excuse-moi. Le fait d'arrêter, il y a tellement d'enjeux, tellement de d'enjeux financiers. Là, nous, on ne parle que de la France, mais t'imagines quand c'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, tous les grands championnats. Comment tu veux FIFA ne pouvait pas rembourser le manque à gagner de tous les clubs, de toutes ces fédérations. Ça, c'était. Non. Ils sont très riches. Mais honnêtement, ils sont pas capables de financer tous les emplois perdus dans chaque club, chaque nation et tout ça.
Je parle pas d'un financement vraiment à 100%. Je parle d'une aide qu'ils auraient pu faire et puis laisser le temps au club de gérer tout ça, de trouver des solutions pour s'en sortir au mieux.
Pas obligatoirement à arrêter le championnat alors.
Moi, pour que ça soit une équipe, pour qu'il y ait une équipe,
l'arrêter, le reprendre, peu importe, mais que ce soit équitable et que ce soit tout le monde à la même enseigne. Je crois que c'est ce que vous voulez dire, Tariq.
Voilà, c'est ça, qui est vraiment des directives de leur part et une directive qui soit un petit peu, qui soit équitable pour tout le monde.
Merci beaucoup, Tariq, d'être venu nous exposer ton avis. Salut, très Tariq. Intéressant et bien argumenté. Agent RATP, on te souhaite bon courage pour lundi et la reprise du boulot post-confinement. Messieurs, est-ce que ce silence, qu'on pourrait estimer, et en tout cas on semble être assez d'accord tous les trois comme coupable, en dit long sur le fonctionnement de cette institution qui est souvent là pour jouer les gendarmes et qui là, alors qu'ils avaient l'occasion de sortir grandi, a préféré se taire.
Non, moi personnellement, excuse-moi Roland, je prends la parole. Je trouve pas qu'il faut juger l'UEFA par rapport à ça. Je trouve qu'il faut juger, en fin de compte, le football mondial, voire européen, puisqu'on parle de l'UEFA, par rapport à ça. Pas seulement l'UEFA, mais tous les comportements qu'il y a eu, les comportements de nos propres dirigeants, les comportements aussi de notre ligue, de notre fédé, et bien évidemment aussi de l'UEFA. Moi, pour moi, ce que je juge, c'est le manque d'unité, alors qu'on demande dans chaque, en fin de compte, la finalité, ils sont en train de gérer tu gères une équipe en fin de compte, tu parles de footballeurs, de 11 mecs, et tu veux une unité dans ce 11, et que toi, à la tête de ça, tu n'es pas capable de fédérer et d'unifier tous ceux qui sont en dessous de toi. Mais par contre, t'es bien capable de taper sur les joueurs qui sont pas unis quand ils vont jouer au football. Donc moi, c'est ça, plutôt que je vais fustiger ce soir, pas spécialement l'UEFA, mais cette mauvaise attitude, on aurait eu tout à gagner en montrant nos valeurs par rapport au football et on a des valeurs, des bonnes, des moins bonnes. Et ben là, on aurait pu montrer une unité. Cette unité, moi, je la déplore. Ce manque d'unité.
Complètement. Et donc là, justement, ce qui est regrettable, c'est qu'il y avait la possibilité et l'occasion. Et là, on a tout fait à l'envers. Bon, enfin, bref. Et maintenant, on va pas le changer. On va voir un petit peu l'évolution des choses. La chose la plus importante, c'est que ce virus disparaisse petit à petit, si c'est pas déjà le cas, et ce qu'on peut souhaiter, et de voir un petit peu ce qui va se passer maintenant en ce qui concerne la Champions League.
Ce sujet vous fait largement.
Là, c'est quand même compliqué.
Ce sujet vous fait largement réagir, auditeur de l'After. Paul nous a appelé, supporter de Bastia. Ça va, Paul?
Ça va et vous?
Salut, Paul.
Ouais, non, c'est bon, ça y est, c'est bon. Le bruit est passé. Paul, t'es avec nous?
Ça
fonctionne. Un supporter heureux, du coup, Bastia remonte, regrimpe petit à petit, est en train de revenir vers les sommets.
Il y a deux choses, il y a Bastia et Bastia Borgo, donc un super derby normalement l'année prochaine en National 1. Ouais. Donc c'est le top.
Et toi, supporter de Bastia Borgo ou supporter du Sporting? Supporter des deux.
Alors,
peut-être.
Supporter du Sporting parce que c'est l'identité même de la Corse. Et donc comme je rentre en Corse près de ma famille cet été, je serai certainement éducateur au FC Bastia Borgo.
Très bien.
Ouais, c'est bien.
Très bien. Tu voulais nous donner ton avis sur cette UEFA qui finalement s'est un peu tue pendant cette période de crise sanitaire.
Ouais, bah, écoutez, je vais essayer d'être clair et concis parce que moi je suis un peu comme coach, je suis très passionné, donc quand je suis passionné, j'ai tendance à beaucoup parler. Simplement, donc j'entends bien, hein, je suis tout à fait d'accord sur les grandes lignes avec Lionel et coach. Simplement, moi, ce que je pense, c'est que l'UEFA ne peut pas gérer la situation actuelle. À savoir que le virus n'est pas le même dans tous les pays. C'est-à-dire que l'UEFA ne peut pas dire vous reprenez ou vous ne reprenez pas. C'est chaque pays, chaque gouvernement qui va pouvoir.
Oui, mais ils auraient pu. Excusez-moi.
Guider, sans gérer.
Ils auraient pu dire on prend aucune décision avant telle date.
Oui, là, je suis d'accord avec vous. Et là, par contre, je suis encore plus d'accord avec vous, c'est que pour moi, le gouvernement français notamment a pris une décision trop hâtive. C'est-à-dire qu'a pris une décision qu'on va peut-être regretter, sans parler des autres championnats, je ne parle pas des autres championnats, mais qu'on va peut-être regretter, nous, personnellement, sur les prochaines semaines, les prochains mois.
J'ai l'impression, Paul, que oui, je suis d'accord avec toi, le gouvernement a pris une décision hâtive, mais tout simplement, enfin moi, c'est mon avis, parce que j'ai l'impression que cette corporation du football, en particulier dans un sport en général, ne s'est pas fait entendre. Ça m'embête. Et donc ils se sont dit vu que de toute façon ils ont l'air de s'en foutre, et ben on va arrêter, comme ça on aura moins de problèmes, d'autres trucs à gérer.
C'est fait entendre dans le mauvais sens.
Exactement. Enfin moi je ressens
désolé,
comme ça.
Le président Aulas, moi je suis pas dans les guéguerres, donc le président Aulas c'est un super président, il n'y a pas de problème. Il l'a assez montré. Maintenant, il a été aussi le très mauvais exemple de ce qui se passe actuellement. Il ne faut surtout pas reprendre. Il faut reprendre, mais de septembre à décembre. Maintenant, il faut à tout prix reprendre. C'est ça aussi. C'est toute cette cacophonie qui a fait qu'aujourd'hui,
exactement,
ils ont pris cette décision. Cette décision que M. Olaf le premier a certainement regretté au mois d'août si l'UEFA reprend la Ligue des Champions.
Ouais, mais donc t'es plutôt d'accord avec nous de dire que l'UEFA, on est d'accord, hein, je le disais en préambule, pas d'ingérence sur les ligues parce que ça reste les derniers décisionnaires.
Bien sûr.
Mais ils auraient pu au moins réunir tout le monde, donner les lignes directrices, aider à avoir quelque chose de cohérent, une certaine cohésion dans les décisions à l'échelon européen, plutôt que de voir la Bundesliga qui reprend le week-end prochain, la France qui reprendra le 22 août.
C'est vrai, après, on voit dans tous les pays, même si on a l'impression peut-être nous que c'est plus présent en France parce qu'on est français. La situation du football français sous les yeux, mais dans tous les pays, je regarde un peu, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc forcément, dans tous les pays, c'est compliqué.
Ouais, on voyait ça hier avec l'Angleterre, il y a des clubs pour, des clubs contre.
Il y a peut-être finalement qu'en Allemagne.
Oui, effectivement, en Allemagne, Willy nous disait qu'il y avait un certain consensus quant à cette idée de reprise. Ça va peut-être changer avec.
On va attendre avec les différents cas qui arrivent malheureusement. Ouais.
Merci
mais malheureusement, il se peut que au fur et à mesure, ça on en découvre encore. C'est la situation actuelle est tellement peu banale que c'est compliqué. Quoi.
Exact. Merci beaucoup Paul d'avoir été avec nous.
Salut Paul.
Très vite en Ligue 1.
Et bon courage pour ton projet.
Ouais, exactement. Merci, avec Bastia Borgo et très vite en Ligue 1 avec le Sporting ou pourquoi pas avec Bastia Borgo. Finalement, il y a pas de raison. Je vous donne un rendez-vous demain, mesdames et messieurs. C'est le RMC Sport Show Revival. C'est tous les jours entre 14h et 16h. C'est présenté par Nicolas Jamin et Nicolas Bensoussan. Une très belle émission qui revient sur des moments forts de l'histoire du sport. Et demain, on reviendra sur le titre du 4x100 en natation. C'était en 2012. Yannick Agnel et j'ai oublié son prénom. Fabien Gillot seront avec vous pour répondre à vos questions. Voilà pour l'émission de demain. On revient dans un instant dans l'after. On va parler des joueurs surcotés. Quel est pour vous le joueur le plus surestimé de l'histoire du foot ?
RMC. L'after foot. Timothée Mémon.
23h21, vous nous appelez au 32-16 pour nous donner pour vous qui est le joueur le plus surestimé de l'histoire du foot. Vous pouvez également réagir sur Twitter ou sur Direct Studio. Alors, on va commencer avec vous, messieurs. Coach, pour toi, quel est le joueur qui te semble avoir été le plus surcoté, celui qui te semble avoir été surestimé par rapport à son niveau réel et qui a peut-être, certains ont réussi des grandes carrières sur une réputation?
C'est-à-dire que un joueur qu'on peut mettre dans une catégorie et qui a été donc au-dessus de ses possibilités, c'est ça, j'ai bien compris?
Oui, au-dessus de ses possibilités, ou alors qu'on a porté au nu comme étant une future star. Je te donne un exemple, par exemple. Moi, j'avais choisi Freddy Adu. le joueur américain, le jeune joueur américain. On avait annoncé que ça allait être un crack. Finalement, on ne l'a jamais vu. J'avais aussi choisi Balotelli, qui est un joueur qu'on a vu, qui a marqué des buts, mais qui a connu des transferts à des montants très très importants pour finalement un rendu. Dû probablement plus à son comportement qu'à son véritable niveau, mais pour un rendu bien médiocre. Donc, coach.
Non, moi, je vois une bonne carrière d'Olivier Giroud à un poste très important, c'est-à-dire le poste numéro 9, c'est-à-dire le buteur et le finisseur. Mais je le mets pas dans la catégorie des très très bons. Je le mets dans la catégorie des bons. Et la carrière qu'il fait avec le nombre de buts marqués en sélection, le nombre de sélections par rapport à ses qualités que je trouve correctes, sans plus, je pense à ce joueur. Mais bon.
Et alors, dans la catégorie coach des joueurs annoncés très bons, mais qui finalement étaient moyens, t'as un exemple ? Tiens, pendant que tu réfléchis, on va laisser Lionel nous donner son joueur.
Moi, tu l'as donné. Moi, c'est Balotelli. Hein, ouais. C'est ce mec-là. C'est simple. Hein, il représente exactement le genre de mec que je n'aurais jamais voulu avoir dans mon équipe. C'est-à-dire que je le trouvais très inconstant, suffisant, déstabilisant pour ses supporters, pour ses coéquipiers, dans sa personnalité aussi, dans son jeu. Dans tout ce qu'il pouvait te faire croire au début, les deux premiers matchs, partout où il est passé, ça se passait très bien. Puis après, bah voilà, avec sa suffisance, avec toutes ses pseudo-qualités que lui il se donnait, il est passé à côté de quelque chose. Et surtout pour moi, c'est un mec qui avait un non-respect pour le groupe. Et ça, je trouve ça, il aurait fait du tennis. Pas de souci, on n'en parlerait même pas de Balotelli. Par contre, comme joueur de foot, ça passe pas. Enfin, pour moi, ça passe pas. C'est pas possible. Kellini a dit de lui que c'était une starlette au lendemain de la défaite contre l'Uruguay là en 2014 dans la Coupe du Monde. Il doit être à gérer. Ça doit être un truc de fou.
Giorgio Kellini a dit d'autres choses sur Balotelli. On en parlera tout à l'heure avec Simone.
Exactement. Ouais. J'avais pas compris comme ça.
Que tu n'avais pas compris la question comme ça, hein, c'est ça ?
Ouais, exactement.
Donc je te laisse réfléchir sur Twitter, un nom qui est énormément revenu, messieurs, comme joueur étant surestimé, comme un joueur que l'on annonce comme étant primordial et qui finalement n'a pas le niveau auquel on l'attend, Paul Pogba. Ça vous surprend ?
Ouais, quand même.
Ah ouais ?
Quand même, je pensais que... Compte tenu, évidemment, de sa carrière, il n'a pas été bon à toutes les saisons. Mais vu la Coupe du Monde qu'il fait, je pense que ça avait pu atténuer pas mal de critiques. Et c'est vrai qu'il est indispensable pour lui maintenant qu'il fasse un bon choix et qu'il soit à nouveau bon et surtout régulier. Alors c'est vrai que sur la régularité de...
Il y a eu des blessures aussi, coach.
Voilà, donc c'est vrai que le bilan, pour le moment, il est quand même en dents de scie. Donc,
c'est
vrai que on peut comprendre qu'il soit cité, effectivement, maintenant que... Oui. Oui.
Mais par rapport à un Balotelli, tu vois, comme le disait Roland, à la Coupe du Monde, il aurait pu faire du Balotelli. Non, il a pris le chemin inverse. Il s'est fondu dans le groupe. Il a travaillé pour le groupe. Il est sorti. Il a fait passer l'esprit du groupe avant sa propre personnalité. Et rien que pour ça, c'est pour ça que je peux pas le. Enfin, moi personnellement, je peux pas le citer parce qu'il y a eu de l'abnégation, il y a eu de l'humilité. Il en a pas toujours eu, c'est vrai. Mais là, au moins, il en a fait preuve au moment opportun qui a permis à la France d'être aussi que championne du monde. Donc, pour moi,
Et puis c'est vrai que Pogba, on a quand même l'impression qu'il a encore le temps de rectifier un peu le tir.
C'est ce qu'on dit tout le temps, mais le temps passe vite.
Il faut qu'il fasse le bon choix.
Il a 27 ans, il faut qu'il fasse le bon choix maintenant. Mais il a quand même réussi effectivement de belles choses.
On peut être d'accord avec ceux qui l'ont cité en disant Pour le moment, oui, c'est vrai.
Pour le moment, ouais, c'est vrai, effectivement.
Avec moins de tumulte aussi, parce que bon, il y a eu quelques phrases, mais pas autant que il doit y en avoir plein des joueurs. Moi, je reviens sur Balotelli parce que j'ai oublié de le dire. À chaque fois qu'il est parti, en mauvais termes. Il est parti surtout en mauvais termes avec ses fans, avec ceux qui lui font son salaire. Ouais. Et ça, c'est pas normal.
Et avec les jeunes des différents centres de formation aussi.
En plus.
autre joueur cité comme ayant été surestimé. Comme un joueur dont on a dit beaucoup de bien et qui finalement n'a pas eu une importance énorme dans le football, Robinho. C'est vrai que Robinho, il y a eu une période, ouais. on s'attendait vraiment à ce que ce soit un crack. Le
plus du Canada Dry, Robinho.
Le fils un petit peu spirituel, la continuité de Ronaldo le brésilien. Et puis finalement, on a vu un bon joueur, mais on a peut-être jamais vu un joueur brillant, messieurs, non?
Oui, c'est vrai. Je pense que bon, on attendait des progrès. Ces progrès, ils sont jamais arrivés. Et finalement, la comparaison avec Canada Dry, c'est vrai que c'est une bonne comparaison. Donc, le Canada Dry d'un grand joueur.
Ouais, effectivement, le Canada Dry. Il y a Karim, 33 ans, qui nous a appelé supporter du Barça. Salut Karim, comment ça va?
Bon, salut, comment ça va tout le monde? Ça se passe bien?
Salut Karim.
Très, très bien, et toi?
Bah ouais, très bien. Bah moi, je veux dire un joueur de mon club, c'est Ousmane Dembélé.
Eh ouais, il est beaucoup revenu également sur Twitter.
Parce que franchement, c'est un joueur qui avait un talent, franchement, qui a un talent exceptionnel. Pour moi, à l'heure actuelle, normalement, il doit être au niveau d'Mbappé. Franchement, d'être au niveau d'Mbappé, il doit être parmi les, voilà, viser le Ballon d'Or comme prétention. Et quand tu regardes franchement son parcours, il est à Dortmund, c'était exceptionnel. Je m'en souviens, c'était l'un des meilleurs jeunes du monde. Pour moi, le problème, c'est qu'arrivé au Barça, la pression du transfert de Neymar, le prix, et tout de suite de Valverde l'a mis titulaire, alors que le mec, je ne sais pas si vous en souvenez, alors qu'il avait cessé l'entraînement avec le Borussia Dortmund et il y avait zéro préparation. Je ne sais pas si vous pensez que ça a coûté, et à cause de ça, bah, il s'est blessé, mauvaise hygiène de vie, arrivé en retard à l'entraînement, et voilà, pour moi, ça
a alors, autre exemple de joueur très jeune qui a peut-être encore le temps de redresser le tir, mais c'est vrai qu'Ousmane Dembélé, depuis son arrivée au Barça, surcoté, quoi.
Non, mais ça fait peur quand tu dis redresser le tir, tu sais pas si c'est pas sans sa personnalité, Karim le disait, son hygiène de vie, les blessures à répétition, tout ça, le mec il arrive en retard dans le groupe, il fout le bordel, enfin ça met le bordel dans le groupe, donc
je crois qu'on a perdu. Oui.
Je pense qu'il voulait dire que effectivement avec tous ces problèmes-là, je vais rajouter encore pour le moment, mais là, c'est pas seulement pour le moment, c'est que le nombre de blessures en aussi peu de temps et des blessures musculaires avec notamment deux opérations pour rattacher le biceps fémoral, ce qui est quand même un tendon très très important pour un organisme. C'est sûr que c'est inquiétant pour son avenir, mais c'est
surtout
vrai qu'on
attend des qualités de vitesse.
Ouais, c'est vrai. On attendait beaucoup et pour le moment, il y a eu cette saison à Borussia et là, après, c'est vrai que on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent.
Lionel, ta ligne a été coupée. Tu voulais finir?
Je sais pas où est-ce que ça a été coupé parce que j'ai dû parler tout seul.
C'est possible. Bon, alors merci beaucoup Karim d'avoir été avec nous. On te souhaite évidemment le meilleur avec le Barça.
Ciao,
et puis du côté de Lille également, puisque c'est de là-bas que tu nous appelais. Autre joueur surcoté, messieurs. Là, je voulais votre avis. Je regrette que Willy soit pas avec nous et qui est pas mal revenu. C'est Thomas Müller. Est-ce que pour vous, Thomas Müller est un joueur qui a été surcoté, qu'on a vendu comme étant
quand même pas,
moi je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Il prend des titres, il est important dans les titres qu'il a pris,
il fait quand même une belle carrière et là,
alors peut-être pour l'actuel
dernièrement il avait eu une période un petit peu moyenne, mais là dernièrement
en plus il est
en train de revenir là.
Ouais, il est revenu, c'est vrai que peut-être pour ça, allez, on va dire sa dernière saison, mais franchement, moi non, je le trouve pas surcoté. Je le trouve mis à son juste niveau.
Peut-être qu'on l'a présenté comme le futur grand joueur Et non, grand joueur, il ne l'a pas été. Mais bon, voire très bon joueur, oui.
Il a quand même, il a été déterminant lors de plein de matchs, notamment pour la Mannschaft. Il a je suis pas là-dessus. Non, Thomas Müller.
J'étais pas tellement d'accord non plus. Je pense que un autre nom va peut-être un peu plus faire l'unanimité. Samir Nasri, messieurs.
Ah ouais.
Est-ce que ce joueur a été mis trop en avant trop tôt et avec une carrière finalement ponctuée de décision, de semi-échec quand même.
Ouais, on s'attendait à une carrière supérieure, brillante, évidemment, par rapport à ses qualités. Après, en ce qui concerne ses qualités, c'est une vision des fois différente. Moi, je pense que son meilleur poste, c'était un 6-8 d'aujourd'hui, pas un 10 je dis pas que il pouvait pas être dans les 25 derniers mètres, mais y venir dans les 25 derniers mètres d'une position de 8, c'est-à-dire un 8 qui devient 10 quand son équipe a le ballon. Et le mettre trop tôt, en attendant de lui des exploits dans les 25 derniers mètres, des buts décisifs, des passes décisives, il avait quand même cette faculté de pouvoir être un relayeur. Moi, je le voyais comme un très bon relayeur, mais pas comme un très très bon meneur de jeu dans les 25 derniers mètres. Ça, c'est ma vision. Après, je ne sais pas si c'est la bonne, c'est la mienne.
Lionel, est-ce que c'est aussi le mental qui a pêché chez...
Moi, je pense. Si j'ai quelques... je pense qu'en plus, il s'est enfermé dans... Il a été pris prisonnier, il s'est pris au piège tout seul par rapport à ses déclarations, par rapport à ses positions. C'est quelqu'un qui a sûrement du caractère. Je ne connais pas personnellement, hein, mais il doit avoir du caractère. De toute façon, on n'arrive pas à ce niveau-là sans avoir du caractère. Mais je pense qu'après, puis peut-être aussi peut-être mal secondé. Ouais, et mal, peut-être aussi mal entouré. On a tout mélangé. Il y a eu des problèmes aussi quand sa femme a pris position, notamment par rapport à l'équipe de France, je crois. Tout ça a déjoué contre lui. Après, pour ce qui est de son jeu, je le trouvais bon, effectivement. Mais c'est vrai qu'il a été pris par son mental. C'était quelqu'un quand même qui était capable de te créer quelque chose de neuf. C'est vrai que c'était trop par intermittence. Les grands joueurs, des joueurs de son talent, t'attends de les voir beaucoup plus fréquemment dans les matchs. T'attends qu'ils soient décisifs pratiquement. Pas d'être décisif quand ton équipe elle gagne, mais d'être décisif quand ton équipe est un petit peu dans la merde. Et là, par moment, il se faisait tirer par le bateau, alors que on attendait de lui que ce soit lui qui mette justement la tête hors de l'eau de tous ses copains. Et ça, il l'a pas fait à plusieurs reprises. Et donc à partir de là, peut-être ça l'a énervé. Peut-être que lui pensait qu'il pouvait le faire. Et il a vu qu'il n'était pas capable. Et ça l'a énervé. Moi, je l'interprète comme ça. Je sais pas. Je le connais pas assez.
Tu le voyais comme un 10, toi?
8.
Ouais, moi aussi.
Arriver plus balle au pied, être capable, parce qu'il a, bah, ce que t'as dit, coach, je suis d'accord avec toi, capable de percuter tout seul, balle au pied, mais capable aussi de donner, demander derrière, et arriver à la limite des 20 mètres et voilà, soit pour la passe D, soit pour le dernier geste, qu'il arrive, si on le mettait plus haut, je trouve que souvent il se retrouvait dos au but, et c'était pas lui, c'était pas ça, il avait pas les bons appels. En tout cas, il a mal été guidé dans les rôles qu'on lui a donné, je pense.
Ce sujet vous fait largement réagir au 32-16. Floris nous a appelé. Bonsoir Floris.
Bonsoir.
Salut,
bonsoir,
tu nous appelles d'où ?
De Marseille, pour faire plaisir à coach.
Alors Floris, dans les joueurs surcotés, qu'est-ce que tu voulais retenir ?
Alors moi j'ai un trio. Donc vous avez parlé de Nasri.
Voilà, je le vois, ouais, le trio. Donc,
et Ben Arfa et Gourcuff.
Ben Arfa et Gourcuff. Alors, messieurs, Ben Arfa...
Tu m'as pas mis Balotelli.
Non, j'ai pas mis Balotelli. Bon. J'ai mis un trio, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. Ben Arfa, pourquoi Ben Arfa, Floris?
Ben Arfa, on peut être que d'accord.
Ouais, Floris.
C'est du gâchis.
Ouais, effectivement. Hein,
c'est du gâchis, un petit peu comme Nasri. Bon, Gourcuff, c'est plus blessure que comportemental comme les deux autres. Mais voilà, quoi, c'est vraiment du gâchis de talent, quoi, parce qu'ils avaient un trio comme ça, comme disait coach, en milieu défensif relayeur, les trois, ils avaient exactement les mêmes capacités.
Ouais, effectivement.
Non, Ben Arfa, je le vois quand même plus haut, moi, sur le terrain que Nasri et Gourcuff, pareil.
Oui, mais si on les mettait tous les trois en même temps, est-ce que je veux dire
tous les trois en même temps, ben je vois
Gourcuff et Ben Arfa.
Ouais, je vois Gourcuff et Ben Arfa plus attaquant que Nasri.
Ouais.
Après pour Johan, on a vite ravalé notre trompette. Hein. On lui a donné, on l'a surcoté. On l'a pas surcoté en fin de compte parce qu'il était très bon à Bordeaux. C'est lui qui, bon, le titre, il a été excellent.
L'année de Bordeaux, c'est exceptionnel ce qu'il fait.
Ah ouais, c'est, il était là, voilà, c'était sa vraie cote. Après, quand il est parti à Milan, il a commencé à se perdre. Nous, en France, en tout cas, on en a beaucoup moins parlé. Là-bas, il s'est complètement perdu. Il s'est même mis l'équipe à dos. C'était un vrai problème, un problème de gestion humaine aussi. On n'en parlait plus, et à partir du moment où il est revenu, on attendait plus trop de lui, quoi. Je pense, hein. Enfin, moi, personnellement, et je pense aussi beaucoup de journalistes, beaucoup de supporters ne l'attendaient plus au niveau qu'il avait fait, qu'il avait eu à Bordeaux. Je pense, hein. On en est vite revenu de Gourcuff.
Merci beaucoup, mais Floris, de nous avoir appelé au 32-16. On te souhaite une excellente soirée.
Que bon, là on maîtrise pas le pourquoi. Fait ouais. partie des joueurs qui a une blessure, et le pourquoi de cette blessure, on le sait pas. Et après, ça enchaîne des tas de blessures. Ça, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à maîtriser, c'est difficile à expliquer. Ça.
J'avais un dernier exemple, messieurs, pour le joueur surcoté, le Golden Boy, 80 millions d'euros pour Anthony Martial. C'est un peu cher, non? Quand on regarde le rendement, est-ce qu'il en a découlé? Ben,
là, il a l'air de revenir. Effectivement, quand la somme, tu l'as multipliée par deux, là, hein, donc je pense que c'est quand même beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'on pouvait attendre plus, mais c'est pas facile non plus d'atterrir aussi jeune dans un club comme Manchester United. Et là, ben, on voit que petit à petit, il y a eu des blessures qui l'ont freiné aussi. Mais là, c'est ces derniers temps, il commençait à être vraiment très très bon.
Faut qu'on fasse attention, parce que j'ai failli aller dans ce sens-là. Tu sais, quand tu nous as demandé notre joueur comme ça surcoté. Quand ce sont des joueurs, si tu regardes en Angleterre, franchement, avec tout l'argent qu'ils ont, des télés et tout ça, ouais. Tu peux en trouver un paquet de surcotés, hein, par rapport au transfert qu'il y a eu, le montant des transferts et tout ça, et le rendu sur le terrain, tu fais 4-3, tu fais la moitié du championnat.
Tu penses à Romelu Lukaku.
Ouais, il y en a un paquet, hein. Franchement, il y en a un paquet qui coûte très cher, mais tout simplement parce que les Anglais dépensent énormément parce qu'ils sont très riches et tout ça. Donc j'ai pas voulu rentrer dans la valeur des transferts et tout ça parce que voilà, c'est complètement démesuré, je trouve, là-bas.
Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir donné votre joueur le plus surestimé de l'histoire du foot. On retient quand même que sur les votes, eh bien Paul Pogba est largement cité, Mario Balotelli également, ainsi que Nasri, ou encore, on a vu des propositions comme David Beckham, c'est un peu plus surprenant. Bon. Ou comme Christophe Dugarry, ça lui fera plaisir. On revient dans un instant pour vous parler de football italien, règlement de compte à Hockey Corral du côté de la Juventus, et puis une belle histoire pour finir la soirée et pour vous accompagner avec la douce voix de Simone Rovera. Tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot. Timothée Mémon.
23h42 de retour dans l'after, la dernière ligne droite de cette émission. On va parler d'Italie. Qui dit Italie dit Simone Rovera, et qui dit Simone Rovera dit ciao, buonasera, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Ciao, Simone.
C'est travaillé à l'entraînement. Alors, on va tout à l'heure parler d'une belle histoire, et puis en plus, c'est d'une magnifique équipe, d'un joueur exceptionnel. Bref, tout ce qu'il faut pour fermer les yeux tranquillement et tomber dans les bras de Morphée en pensant à un football d'une autre époque où les nuques étaient longues, les maillots étaient amples. Mais qu'est-ce qu'on se marrait. Mais avant cela, on va parler justement d'un chauve, Chiellini. Chiellini a sorti un livre, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça balance pas mal.
Ah oui, ça vient de sortir la biographie de Giorgio Chiellini, biographie s'appelle Io Giorgio, moi George, et rien, il faut dire que pour vendre, on sait, des bouquins, parfois il faut avoir des punchlines, quelque chose qui ça aide à faire sortir un peu du contexte ordinaire pour donner des vrais titres. Et là, il y a eu deux phrases qui ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, dans la presse, un peu partout, parce que Giorgio Chiellini a parlé de deux joueurs, Mario Balotelli et Felipe Melo. Et de Balotelli, il a dit que c'est une personne négative. Et il a raconté un souvenir d'un 2013, en conférence de Choncap, il a dit il nous a pas aidé, en parlant de la sélection italienne. C'était une chose qu'on aurait dû les gifler. C'était une personne à gifler. Et l'autre, c'est Felipe Melo.
Une tête à claque, qu'il a dit, qu'il aurait bien aimé lui donner une paire de gifles. Voilà exactement les propos de Kevin.
Et l'autre, c'est Felipe Melo, l'ancien coéquipier de la Juve, qui a été considéré une personne brésilien, quelqu'un qui cherchait toujours des embrouilles, et l'a dit, et bref, j'ai le même dit aux dirigeants, c'était en italien, c'est une amela marcia, une pomme pourrie.
Une pomme pourrie, oui.
Voilà, donc il a balancé ça, il y a eu bien sûr deux réactions. Felipe Melo était plutôt dur, direct, avec Giorgio Chiellini, en disant lui il parle, il a rien gagné dehors de la Juve, et n'a jamais gagné avec la sélection. En Europe, tout le monde sait qu'est-ce que il vaut. Chiellini avait même dit de détester sportivement. Il faut peut-être faire un raisonnement sur qu'est-ce qu'on peut dire en niveau de sportif, l'Inter. Et Felipe Melo dit, moi, j'ai toujours été plutôt supporter de l'Inter. Chiellini dit ça parce que l'Inter, en 2010, a fait les triplés. Lui, il a jamais rien gagné dehors de l'Italie. Donc, il y a eu même cette rivalité Inter-Juve qui est sortie. Et la chose, bien sûr, a fait exploser un peu les réseaux sociaux en Italie, entre les supporters de l'Inter qui étaient énervés avec Chiellini, qui est aussi capitaine de la sélection. Donc, il a un rôle, on peut dire, même institutionnel. On peut même discuter, est-ce qu'un joueur peut dire ce qu'il pense vraiment d'une rivalité sportive ou pas. Mais la chose qui a fait peut-être plus discuter, c'est la phrase sur Balotelli. Pourquoi ? Parce que Balotelli, il a répondu. Il a dit, j'accepte pas d'être défini comme ça, surtout que depuis 2013, Giorgio Chiellini m'a vu plusieurs fois. Il m'a jamais dit ça face à face, et il balance ça sur un bouquin. Donc, il y a eu des réactions plutôt divisées, partagées sur ça. La dernière, ça vient de tomber, c'est celle de Luca Toni, qui, sur un de ses directs Instagram qu'on fait tout le temps, il s'est mis un peu du côté de Balotelli en disant, si c'est vrai Chiellini n'a jamais dit ça, ça c'est pas normal, parce que certaines choses il faudrait les dire
lui a jamais dit en face,
en regardant dans les yeux. Voilà.
Et c'est un livre qui est sorti pendant le confinement, ça?
C'est un livre qui vient de sortir ces derniers jours. Et Giorgio Chiellini est en train de faire un peu aussi de promo médiatique. Mm-hmm. Aujourd'hui, il était sur Sky Sport. Il y a un entretien qui est sorti sur le quotidien La Repubblica, où il a confirmé toutes les choses qu'il a dit, surtout les deux thèmes un peu plus chauds qui sont Balotelli et Felipe Melo. Mais on peut dire, les vrais débats c'est sur le fait, les capitaines de la sélection va dire ça d'un coéquipier potentiel, ou quand même Balotelli a encore été sélectionné avec Roberto Mancini pour la Nation League, donc c'est encore quelqu'un qui fait partie de la sélection, et il peut dire ça dans un bouquin sans le dire avant. Et l'autre, c'est les détester sportivement notre équipe, ça aussi fait beaucoup réagir. Mais je peux dire qu'il y a plusieurs personnes, même personnalités qui suivent l'Inter, qui disent au moins il est sincère, on ne doit pas s'aimer tous, c'est bien d'avoir
un vrai. C'est pas les bisounours, quoi. Ok, voilà pour Yo Giorgio, le livre de Giorgio Chiellini qui vient de sortir et que j'offrirai personnellement à Lionel le jour où il gagnera un quiz de l'After. Voilà, je ne prends pas énormément de risques.
Faire des économies.
Je te le dédicacerai. Je te le ferai dédicacer également par Simonet, on verra. Simonet, on avait envie de finir ce samedi soir tranquillement en écoutant ta douce voix nous parler d'Italie et de ces histoires qui ont fait finalement ce championnat italien, qui à une époque était probablement le championnat le plus relevé des cinq grands championnats. Les choses ont probablement changé depuis, mais quelle époque, celle de la Fiorentina et celle de Battistuta.
Bah oui, la fin des années 90, là on parle d'une saison un peu extraordinaire, un peu spéciale, 98-99. C'était l'époque en Italie, on disait qu'il y avait les sept équipe sœur qui pouvait gagner. Il y avait la Fiorentina, il y avait Parme, il y avait Inter, Lazio, Roma, Milan, Juve, bien sûr. Il y avait des équipes qui étaient supérieures aux autres en Italie. Il a été supérieur pratiquement aussi en Europe. C'était les années où les Italiens gagnaient la Ligue des Champions, arrivaient toujours en finale, comme la Juve gagnait la Coupe UEFA, la Coupe des Coupes quand il y avait encore. Mais cette histoire, c'est un peu la plus triste, mais aussi la plus belle qu'on peut raconter de cette période-là, parce que c'est l'histoire d'un rêve qui se termine sur un match. Il y a un moment, il y a un instant où les titres s'écroulent. Et la chose incroyable, c'est que c'est pas un titre qui est perdu à la dernière journée, à l'avant-dernière journée. C'est un titre qui est perdu le 7 février 1999. C'était la Fiorentina vraiment extraordinaire avec Edmundo, avec Oliveira, avec Battistuta, Rui Costa, avec Trapattoni sur les bancs des touches. Et cette équipe jouait avec un 5-3-2, avec Toldo, Torricelli, Henrik, Repka, Padalino, Falcone, derrière, bien sûr, Rui Costa au milieu de terrain, avec Kois. C'est une équipe vraiment très, très belle. Avec un Battistuta extraordinaire. Il avait marqué 17 buts sur les 17 journées allées. Donc, une machine à but. Et sur ces matchs-là, quand on arrive à cette Fiorentina-Milan, la Fiorentina est première. 41 points, la Lazio a 38, Milan a 36. Et sur ces matchs-là, la Fiorentina fait un match très beau, c'est 0-0. Ça manque quelques minutes pour terminer les matchs, 88e minute. Quand Battistuta part, moi je me souviens de ces matchs, j'ai dans la tête l'image, c'est impossible à oublier. Parce que 88 minutes, Battistuta part toute seule vers le but de Abbiati. Et à un certain moment, il s'écroule totalement. Toute seule, il tombe. Et les silences du stade Artemio Franchi, c'est incroyable. Et c'est une blessure. C'est une blessure musculaire. Ils sortent sur civière. Tout le monde comprend que c'est quelque chose qui vient de se passer. Que la saison, peut-être, de la Fiorentina se termine. Sûrement, Battistuta reste longtemps dehors du terrain. Et la chose incroyable, qu'avec la blessure de Battistuta, tout le monde comprend que le rêve du titre de la Fiorentina est terminé. La Fiorentina va terminer troisième. La chose plus grave, quand même, c'est pas que la Fiorentina perde les titres seulement pour la blessure de Battistuta. C'est qu'il se passe une autre chose, ce soir même. C'est que Edmundo avait une accorde dans son contrat. Il a été libre de partir pour aller au Brésil au Carnival. Et dès soir même, quand Battistuta doit passer le contrôle médical, mais on sait que ça sera une longue blessure, Edmundo part. Edmundo quitte Florence pour aller au Brésil. Edmundo quitte son équipe première au classement, qui rêve les titres, sans son meilleur joueur, l'homme qui avait marqué 17 buts en 17 matchs sur la phase aller et qui avait marqué un but sur les trois matchs suivants. Et oublie ses coéquipiers parce que lui, il avait cet accord avec le Brésil et il décide d'aller au Brésil quand même. Et donc la Fiorentina perd sur la même soirée ses deux attaquants, une pour blessure et l'autre pour amour du pays, on peut dire. Et cette image, je ne sais pas si vous la souvenez, si quelqu'un l'a vue, des Battistuta qui tombe toute seule en se tenant la jambe et comment le stade de Firenze avait compris qu'en ce moment, c'était terminé le Rêve Scudetto en février, avec encore 14 matchs à jouer. Pour moi, ça reste vraiment les symboles de ce qu'est cette Fiorentina extraordinaire, qui allait gagner à Arsenal, qui allait gagner face à Manchester champion d'Europe, qui était incroyable aussi en Europe. Et ces joueurs magnifiques qui voulaient gagner avec la Fiorentina, elle a toujours refusé de partir. il pourra pas gagner les titres avec la Fiorentina. La saison suivante, il reste, mais deux ans plus tard, il va partir pour aller à la Roma.
Et quand il revient, Edmond, il a pas des problèmes avec les supporters?
Il a des problèmes avec les supporters, il a des problèmes dans les vestiaires. Tout s'écroule sur ces matchs-là. Oui, il revient, il finit la saison, mais rien n'est plus comme avant. Avant, il y avait on peut pas dire petite équipe parce que c'est une grande équipe et c'était une équipe qui pouvait gagner. Mais quand tu es outsider quand même, et tu joues au-delà de tes limites, du moment il y a une petite chose qui va interrompre ta série extraordinaire. La Fiorentina avait gagné 16 matchs consécutifs à domicile. C'était sur une série de 16 victoires consécutives à domicile avant ces matchs face au Milan. Et sur ces matchs, au-delà du fait qu'ils n'ont pas gagné et que Baptiste se blesse, oui, à 2 minutes de la fin, mais sur une action de but, c'est la fin psychologique. Et c'est probablement la fin aussi de cette Fiorentine extraordinaire qui va encore jouer des coupes d'Europe, qui va faire une demi-finale en coupe UEFA une dizaine d'années plus tard, qui va va gagner des coupes d'Italie. Mais à partir de là, on n'a plus jamais vu une Fiorentina vraiment être à la hauteur des autres sœurs italiennes et rêver les titres parce que Batistuta, pour moi, c'est l'avant-centre qui m'a plus marqué de cette période-là. Avant Ronaldo. Alors, pour moi, c'est l'avant-centre plus fort que
j'ai vu. Alors, j'allais le dire.
Fort physiquement, physiquement. Parce qu'après, Van Basten était différent. Mais joueurs comme Batistuta, il y en a eu peu.
J'allais le dire, Simonet, si vous êtes né après 95, que vous n'avez pas connu Batistuta, et que vous avez un peu de temps, que vous êtes en zone rouge, que le collège va pas reprendre, n'hésitez pas. C'est l'archétype d'un football, d'un autre football, du football de ces années-là. Mais qu'est-ce que c'était beau, avec des stats absolument hallucinantes. Avec la Fiorentina, il a joué 333 matchs, 207 buts, c'est-à-dire 2 buts tous les 3 matchs. Avec l'équipe d'Argentine, les stats sont similaires, 78 matchs, 56 buts. C'était un joueur juste hallucinant et c'était vraiment un joueur d'une immense classe. Si vous aimez le foot et que vous êtes né encore une fois après 95, regardez, trouvez des vidéos avec une allure, comme dit Coach, un côté parfois costaud, parfois bestial, parfois puissant à l'épaule contre épaule et une telle finesse à la finition. Ça fait partie des joueurs qui font aimer le football et le ballon. Voilà. J'avais une question pour toi, Simonet, par rapport à cette histoire très chouette que tu nous racontes avec beaucoup d'émotion. Est-ce que finalement, c'est pas plus que le calcio qui s'est envolé pour la Fiorentina? Est-ce que si la Fio avait remporté ce calcio-là, la Fio n'aurait pas pu devenir l'un de ces grands clubs type Milan AC, type Inter, type Juve? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu s'inviter dans le bal des grands si elle avait pris ce titre à cette époque-là?
Non, peut-être pas, mais ça aurait pu rester un peu au niveau de Lazio et Rome, c'est-à-dire
une
marche derrière. C'était des années où les propriétaires, là c'était Cecchi Gori, un producteur du cinéma, investissaient énormément d'argent. Batistuta a 31 ans, il part donc 2 ans plus tard pour 70 milliards, donc aujourd'hui ce serait 35 millions d'euros, pour aller à la Roma, et c'était la Fiorentina à l'époque quand même qui investissait énormément. Et ces périodes-là, quelques années plus tard, ils sont obligés de tout vendre, Rui Costa au Milan, Toldo à l'Inter, Batistuta à la Roma, et ils sont en train de détruire cette équipe extraordinaire aussi pour des raisons économiques. C'était la fin de l'âge d'or où les équipes italiennes, toutes les équipes pouvaient dépenser des milliards, et je pense que c'était les moments ou jamais pour la Fiorentina de monter un étage supérieur.
Ce que tu nous expliques, Edmond, c'est sincèrement, donc j'étais pas au courant. J'arrive pas à trouver le mot, même inadmissible.
C'est vrai, en route pour le titre, partir au carnaval, même si t'as un accord, quand tu t'aperçois que ton joueur est blessé.
Je sais pas, y a rien à dire.
C'est petit.
C'est tout petit.
Merci beaucoup.
Edmund, les noms d'Edmund, comment dire, les petits noms, les surnoms d'Edmund étaient haut animal. Parce que c'était un personnage un peu controversé sur les terrains et dehors.
Merci beaucoup Simone de nous avoir fait vivre ce moment d'histoire du Calcio avec autant d'émotions, c'était vibrant. On te souhaite une excellente soirée. Ciao. Et un bon retour ciao, à la normale petit ciao, à petit Simone. En Italie, c'est tout ce qu'on te souhaite ciao, évidemment. Lionel, coach, je vous remercie infiniment d'avoir passé cette dernière soirée avec moi.
Salut,
vous retrouvez coach. L'after
salut,
dès
David.
Demain à 10h. Je vous rappelle également ce rendez-vous, le RMC Sport Show Revival demain à partir de 14h et jusqu'à 16h. RMC vous fait revivre un grand moment de l'histoire du sport. Et demain, Nicolas Jamin accueillera Yannick Agnel et Fabien Gillot suite au titre de 2012 obtenu en natation, le 4x100 mètres. Voilà une très très belle histoire. Et puis dans la deuxième heure, Wendy Renard sera avec vous, auditeur d'RMC, pour parler de football féminin, de l'équipe de France, de l'Olympique Lyonnais également. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve très vite sur l'antenne d'RMC. Évidemment, les programmes continuent. N'oubliez pas ce que disait Bill Shankly, le football, ce n'est pas une question de vie ou de mort. C'est beaucoup plus important que ça. Bonne soirée.
RMC. L'After Foot.